Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes avec Pascal Laurent, bonjour.
Bonjour.
Et puis de Roselyne Chauvin, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes ici pour nous parler de l'actualité de Stop Linky, Dromardèche en particulier. Et puis vous êtes ici aussi pour nous tenir compte de l'actualité dont on parle actuellement, justement sur les méfaits et la nocivité des compteurs Linky à l'égard de certaines populations, avec deux jugements contradictoires, justement, qui ont eu lieu la semaine dernière, concernant justement la nocivité du Stop Linky. Un qui prônait justement les difficultés que ça pouvait amener pour des personnes électrosensibles, et un autre qui a carrément dénigré les plaignants. Voilà. Alors, qu'en est-il pour vous de ce point de vue?
Alors, effectivement, comme vous le dites, Yves, l'actualité est très riche en ce moment sur le Linky, notamment l'actualité juridique. Il faut savoir que depuis le mois de juin, on a effectivement eu pas mal de rendus de jugements en référé sur le Linky. Et alors, notamment, vous parliez effectivement d'une certaine population. Hein, on va parler aujourd'hui des personnes électrosensibles. Il s'avère aujourd'hui que la justice a 5 fois reconnu les problématiques que pouvait apporter le Linky, hein, puisque on a eu, ça a commencé par Toulouse, après on a eu Foix, on a eu également Bordeaux, on a eu Tours, et puis le dernier en date, c'est celui de Grenoble. Alors dans tous ces jugements, effectivement, il y avait des plaignants non électrosensibles et des plaignants électrosensibles. Il faut savoir que dans ces, je dirais même ces 6 juridictions, le rendu de justice concernant les électrosensibles, pardon, et je dirais pas sans appel, mais le juge a statué effectivement sur le dossier en disant que il ne devait pas y avoir de Linky chez les personnes électrosensibles. Si le compteur avait déjà été installé, ce compteur devait être désinstallé. Et dans un cas comme dans l'autre, la justice demande à Enedis d'installer des filtres pour protéger effectivement les personnes électrosensibles des rayonnements liés au CPL du compteur Linky.
D'ailleurs, il y a eu des tests effectués par eux-mêmes sur l'innocuité des compteurs Linky et puis aussi du CPL.
Oui.
Mais sauf que apparemment, ces tests étaient plus ou moins falsifiés.
Alors voilà. Alors sur cette actualité aussi, il y a eu quelque chose de nouveau. Il s'avère que un des cabinets qui mène effectivement dans la région, qui a mené des actions en justice, hein, à savoir le cabinet L'Expressia, dans lequel interviennent Madame Lepage, Christophe Ledvague et Arnaud Durand, le cabinet a mis à jour des choses que dans le mouvement anti-Linky, on connaissait déjà, et notamment Robin Détoy avait déjà parlé de ces problématiques. Il faut savoir que Enedis, sur le sujet du CPL, n'a pas dit totalement la vérité aux gens. Je rappellerai effectivement sur votre antenne que le CPL du Linky fonctionnera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et notamment sur l'innocuité sur laquelle s'appuie Enedis, à savoir les thunes de l'ANSES, qui a été relayé effectivement par un rapport du CSTB en 2017. Dans ce rapport, effectivement, il est dit que le CPL émis effectivement reste en deçà des normes, d'accord. Par contre, dans ce rapport, ce qui n'est pas dit par Enedis quand même, c'est que le CSTB indique un bruit de fond ambiant avec communication Linky qui est 250 fois supérieur à la normale. Et l'événement récent qui a été amené effectivement par le cabinet L'Expressia, c'est que ces études ont été complètement minimisées, puisque en fait les tests ont été faits premièrement avec un compteur Linky dont le CPL avait été paramétré par Enedis, donc dans des niveaux, on suppose, minimum. Et puis, la deuxième problématique, effectivement, qui est relevée par le cabinet L'Expressia, c'est que ces tests ont été faits avec une alimentation électrique avec des fils torsadés. Et on sait très bien qu'en électricité, lorsque vous torsadez des fils, vous diminuez de manière très importante le rayonnement électromagnétique. Ce qui veut dire que ce qui est apparu dans les mesures a été truqué. Et ça, aujourd'hui, c'est pointé. Donc le cabinet L'Expressia a fait un communiqué de presse sur le sujet. Il y a une action en justice qui est portée effectivement à la connaissance des juges sur effectivement cette falsification, même on pourrait dire, de l'étude, ou en tout état de cause une minimisation des effets pour les populations électrosensibles.
Roselyne, vous vouliez rajouter ?
Je peux préciser que dans nos villages, nos petits villages et nos vieilles maisons, les installations ne sont pas toujours aux normes, les circuits électriques ne sont pas blindés, donc le rayonnement du CPL est amplifié et rayonne tout à l'aise, et donc les risques sont encore aggravés. Voilà.
Je préciserai également, pour aller dans le sens de Roselyne, c'est qu'il faut bien que les gens comprennent aujourd'hui que c'est pas le Linky c'est pas le compteur qui émet le CPL. Le CPL est généré à la base donc par Enedis sur l'ensemble du réseau, et donc l'ensemble de ces rayonnements CPL, que vous ayez un Linky ou pas de Linky, va arroser l'ensemble des populations. Voilà.
On peut rappeler un petit peu, par pédagogie, tous les termes utilisés, le CPL...
L'ANSES, je le rappelle hein, pour vos auditeurs, l'ANSES, c'est l'Agence Nationale de Sécurité Environnementale, etc., et environnementale. Pour ce qui est du CSTB, c'est le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, voilà. Donc c'est un organisme qui fait effectivement pas mal d'études, notamment comme son nom l'indique, sur le bâtiment, sur des techniques constructives, etc., etc. Mais sur ce que aussi on installe dans les bâtiments, et notamment le réseau électrique fait partie effectivement des compétences du CSTB. Voilà. Pour les abréviations, alors ce fameux CPL, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement courant porteur en ligne. Derrière ce terme un petit peu barbare, qu'est-ce qui se cache ? C'est tout simplement, avec cette technologie, cette technique-là, on a la possibilité de rajouter sur une fréquence qu'on va appeler la fréquence porteuse, c'est pour ça qu'il y a le terme de courant porteur en ligne, on va pouvoir rajouter des surfréquences qui vont être véhiculées, bien évidemment, par la fameuse porteuse. Donc, pour faire un parallèle avec l'électricité, dans le cas présent, la porteuse, c'est notre courant 50 Hz dont on avait l'habitude. Et sur ce courant 50 Hz, Enedis a la possibilité de rajouter des fréquences qui, je le rappelle, s'échelonnent entre 30 et 95 000 Hz, d'accord ? Enedis, justement sur ce sujet, dit qu'il a déjà utilisé la technologie du CPL, et effectivement je le confirme, pour le pilotage des heures creuses et des heures pleines. Par contre, en termes de notions et de valeurs d'échelle, il faut savoir que le CPL qui contacte les heures creuses et heures pleines, notamment sur les chauffe-eau électriques, il faut savoir que la fréquence du CPL en question est de 175 Hz. Et pas de kilohertz, donc on a des facteurs largement de 1000 fois supérieurs aux émissions. Voilà.
Oui, parce que les compteurs Linky imposent une installation électrique qui répond à ses besoins, c'est-à-dire un câblage blindé. Ce que beaucoup de logements en France n'ont pas encore. Quelles sont les incompatibilités
je confirme que, mis à part des logements neufs sur lesquels des personnes avisées souhaitent blinder l'ensemble de leur réseau électrique, et même ce qui est tout réseau de communication, Globalement, aujourd'hui, sans me tromper, on est largement à minima sur 95% des logements en France qui n'ont aucun câblage et installation électrique blindée. Et donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ce fameux courant porteur en ligne et ces multifréquences qui seront générées effectivement par ce courant porteur en ligne vont arroser l'ensemble du réseau électrique de la maison, les fils ou de l'appartement
en permanence,
hein, H24 H24 et 7 jours sur 7. Et en l'occurrence, effectivement, il faut savoir que les câbles n'étant pas blindés, tout le réseau électrique de la maison, tous les câbles, deviennent potentiellement des antennes et permettent effectivement la transmission de ces rayonnements électromagnétiques, voilà, liés au CPL.
Donc, pour le long terme, hein, parce qu'on peut dire comme ça, il va y avoir beaucoup d'investissements pour mettre à jour les installations électriques. Finalement, c'est un mauvais point encore pour le compteur Linky, qui, soi-disant, a amené une notion d'économie pour le consommateur. Ça ne sera pas le cas, hein, finalement.
Alors, effectivement, si on vient sur ce sujet du Linky, si on vient à la genèse du projet, déjà le projet, il était effectivement déjà un petit peu pipé dès le départ, à savoir que il faut savoir que la communauté européenne avait dit effectivement qu'il serait bien que les consommateurs d'électricité deviennent acteurs de leur consommation, mais il ne fallait pas faire n'importe quoi, et ça la directive européenne de 2012 le précisait bien. Et en l'occurrence, effectivement, cette directive, elle disait qu'il fallait faire une étude préalable. Bon, il faut savoir qu'en France, l'étude préalable a été faite, et que cette étude, elle devait faire apparaître les coûts et les bénéfices. Et on a, effectivement, pour soulever le sujet, si Enedis, effectivement, avait intégré le coût de rénovation des installations électriques, on aurait eu des coûts surdimensionnés, et le bilan coût-bénéfice, effectivement, aurait complètement été en la défaveur du projet. C'est ce qui fait d'ailleurs que certains pays, pour des problèmes de coûts, et notamment l'Allemagne, n'a pas développé cette technologie, parce que quand les coûts étaient supérieurs aux économies qui pouvaient être réalisées, il y a certains pays qui ont décidé complètement d'abandonner effectivement ce sujet-là. Voilà. Donc, il y a d'autres domaines effectivement aussi où on a minimisé les coûts. À savoir, effectivement, c'est un sujet qui a déjà été évoqué et d'ailleurs qui ressort dans les ordonnances de délibérer effectivement des jugements. Normalement, il faut savoir que depuis 2008, on ne peut pas installer un dispositif, notamment le comptage, sur un panneau bois. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'installations où le compteur est installé à la place de l'ancien compteur. L'ancien compteur était installé sur un support bois et le compteur Linky ne devrait pas, si on souhaite respecter effectivement cette norme. Hein, je rappellerai que cette norme, c'est la NFC 14-100, qui dit qu'effectivement, on ne peut plus, depuis 2008, installer. D'ailleurs, les nouvelles installations, notamment les maisons neuves, sont à la norme, mais le réseau ancien est complètement pas à la norme. Et donc, effectivement, si on avait intégré la réfection des tableaux, c'est-à-dire mettre des panneaux inextinguibles derrière le compteur, bah, effectivement, ça aurait renchéri effectivement le coût. Et d'ailleurs, effectivement, j'invite vos auditeurs aussi à aller donc récupérer effectivement ce communiqué de presse là du cabinet Expressia, parce qu'également dans ce communiqué de presse, bon, il est simplement en première instance, il est stipulé la chose suivante: l'évaluateur intervenu pour présenter le Linky devant la commission de régulation de l'énergie était une personne qui était rémunérée par la SA Enedis. Donc ça veut dire que dès le départ, on avait un réel conflit d'intérêts dans cette affaire.
Est-ce qu'il existe en France un monopole de ce type de matériaux qui va être très sollicité dans les prochaines années? Est-ce que c'est une préparation à de futurs bénéfices qui étaient déjà en vue?
Alors, il n'y a pas de situation de monopole, parce que je pense que, pour tout vous dire, le sujet du matériel électrique, effectivement, je pense que tout fournisseur et tout fabricant de matériel électrique aujourd'hui est en capacité de produire des gaines blindées. Bon, effectivement, voilà, c'est un marché qui risque effectivement de voir une expansion, sachant qu'il est aussi très difficile, comme le disait Roselyne tout à l'heure, dans une vieille installation, si vous voulez retirer un réseau blindé à partir de l'ancien réseau, bon, en règle générale, ça va se faire souvent de manière apparente, sous goulotte. Donc c'est pas esthétiquement, c'est pas très joli, et puis c'est à la charge bien évidemment des personnes, hein, bien évidemment. Donc, moi je dirais que la solution, c'est peut-être effectivement de revenir sur le sujet du Linky et de dire effectivement, est-ce que la technologie de communication qui est utilisée pour le projet, qui est le CPL, est-ce que c'était la bonne? Alors effectivement, pour Enedis, c'était la bonne puisque c'était la moins chère, on est bien d'accord. Donc, je pense que la question, elle est réellement là. Et le juge aujourd'hui, il ne dit pas qu'il faut, il faut reblinder tout le câblage, il dit aussi en substance qu'il faut mettre un filtre, et il existe des filtres, justement, qu'on met en amont d'une installation et qui bloquent les fréquences qui sont générées, effectivement, par le CPL du Linky. Voilà.
Et ça, ce n'est pas forcément appliqué?
Alors ça c'est absolument pas appliqué. Aujourd'hui, c'est le fait nouveau, hein, donc ces 6 décisions de justice récentes demandent, où le juge demande à Enedis d'installer effectivement ces filtres CPL. C'est une demande. Et il faut savoir, pour aller jusqu'au bout de la transparence, il faut savoir que ces 5 jugements, sur ces 5 jugements, Enedis, bien évidemment, a fait appel. Donc, on est là dans une procédure d'appel de la part d'Enedis sur le sujet. Et bon, il faudra voir aussi quelle est la position du juge à la suite de la procédure d'appel qui est initiée aujourd'hui sur ces ordonnances, sur ces procès, voilà, vis-à-vis de sa demande. Voilà.
Comment peut-on expliquer ces contradictions dans ces 2 jugements connus là, ces dernières semaines concernant les compteurs Linky? Est-ce que c'est dû à une méconnaissance de la justice des données techniques et des données scientifiques surtout?
Alors voilà, le litige aujourd'hui, si vous voulez, il porte sur la justice aujourd'hui, mais un petit peu, je vais dire, le doigt là où ça fait mal. La justice reconnaît par les jugements qu'il y a dangerosité. Aujourd'hui, alors, la science, la seule science aujourd'hui, quelque part, si je peux m'exprimer ainsi, dont on reconnaît la qualité de l'étude, entre guillemets, c'est l'Agence nationale de sécurité environnementale. Il faut savoir que dans le rapport Bio-Initiative, il y a plus de 1000 études qui disent que les rayonnements électromagnétiques, quels qu'ils soient, sans donner de valeur, disent que les rayonnements électromagnétiques sont dangereux pour le vivant. Et là, j'insiste bien sur le mot vivant, c'est-à-dire que ces technologies-là, puisque là on parle du Linky, mais il faut savoir que la téléphonie mobile, le Wi-Fi, etc., toutes les nouvelles technologies sont génératrices de rayonnements électromagnétiques. Et la problématique aujourd'hui, elle est là. On arrive effectivement, malheureusement, à une surdose d'exposition. Les gens, l'humain et le vivant est baigné aujourd'hui dans un électrosmog. Et effectivement, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, c'est vrai que par rapport au fait de dire, la science, enfin, moi j'estime que la science, effectivement, quand vous avez un rapport tel que Bio-Initiative qui dit plus de 1000 études qui pointent du doigt le sujet, qui dit c'est dangereux, attention, il faudrait peut-être limiter l'exposition. Lorsqu'il y a eu le déploiement de la téléphonie mobile en France, il faut savoir que le rapport Komodo, il a donné lieu à une seule étude qui malheureusement disait effectivement, on a testé sur les rats, c'est pas terrible. L'année d'après, malheureusement, le laboratoire qui a fait l'étude, il a plus de crédit pour l'utiliser. Et là, c'est vrai qu'on est malheureusement dans des arguments économiques avec une pression importante des lobbies industriels. Et effectivement, on développe à outrance ces technologies et puis et malheureusement sans réellement prendre en compte la réelle problématique de cette surexposition du vivant au rayonnement électromagnétique et donc effectivement et à la dangerosité que cela suppose. Voilà.
Roselyne, vous-même, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager sur ce combat contre les compteurs Linky?
Eh bien, parce que moi, c'était un autre sujet. J'avais assisté à une réunion. Et ce qui m'avait alertée, c'était surtout le fait de pouvoir capter nos données personnelles et donc cette histoire de liberté, hein, puisque ça va jusque dans notre domicile, donc c'est vraiment capter nos données personnelles intimes de notre vie. Chacun préserve son intimité chez soi. Pour revenir aux ondes, je voudrais dire que pour le moment, la justice reconnaît, enfin, les cinq jugements qu'on a eus, reconnaît un danger pour les personnes électrosensibles. Mais comme le disait Pascal, ce brouillard électrosmog qui se développe, et en particulier maintenant avec les compteurs Linky 24 heures sur 24 chez soi, dans sa maison, ça ne peut pas toucher seulement que les électrosensibles. Ça veut dire que les autres, c'est-à-dire vous, moi, tous ceux qui ne le sont pas encore, vont risquer de le devenir. On ne naît pas électrosensible, on le devient. Et donc, chacun sa dose. Hein. Et une fois que cette dose est dépassée et qu'on est installé dans la maladie, c'est un vrai calvaire. Les gens qui sont malades, j'en ai rencontré, c'est pas de la fabulation. Il y a des médecins comme le professeur Belpomme qui est quand même attaqué par le Conseil de l'Ordre pour avoir fait des ordonnances, en fait, des justificatifs pour des électrosensibles, des certificats médicaux pour les électrosensibles. Bon, moi, ça me rappelle ce fameux combat sur l'amiante qu'on a vécu pendant des décennies, alors que ça se savait. Et que malgré tout, ça s'est déployé. Il a fallu des décennies pour qu'on se dise oh, « l'amiante, ah ouais, c'est vraiment une saleté hein. ». Et bien là, c'est pareil. Et en ce moment, on a, c'est pareil, il y a le projet du développement de la 5G. Et la 5G, d'après ce que j'ai compris, puisque j'ai écouté l'émission de Maud Vigan, ils ont obtenu le droit de mettre des antennes, ce sont des toutes petites antennes, où ils veulent, sans demander d'autorisation. C'est-à-dire que les gens, vous, moi, on ne saura même pas où sont ces fameuses antennes. Alors qu'on dit qu'il ne faut pas mettre d'antennes proches des écoles, des crèches et tout ça. Et donc, du coup, ben là, il va y en avoir partout. On ne saura pas où. Et c'est encore bien plus fort, ces antennes 5G. Moi, je n'ai pas de chiffres, je ne suis pas spécialiste. Mais visiblement, c'est beaucoup plus fort encore en termes de rayonnement. Et voilà, on est... Comme disait Antoine, on est parti à fond dans ce truc-là. Et c'est un danger pour l'humanité. Et pour le vivant, hein, parce qu'il n'y a pas que les humains.
Il n'y a pas que les humains.
Hein, les plantes, les oiseaux, tout.
Les abeilles, les insectes.
Les abeilles, les insectes, oui.
L'association Robin des Toits, justement, avait mené un combat, ou le mène toujours, justement, sur une réduction de puissance des antennes sur les cités urbaines, de manière à réduire, je veux dire, l'impact de ces ondes sur la population. Le fait que ce soit des petites antennes pour la 5G, est-ce que c'est mieux, quand même, que des grosses antennes 5G ?
Alors... Sur l'aspect technique, je dirais deux choses. Déjà sur les émissions au sens général. Bon, faut savoir qu'il y a on parle souvent à Enedis. Alors je reviens sur le sujet d'Enedis et du Linky, mais je rejoindrai aussi ce que signale Roselyne sur l'aspect 5G. La communauté européenne a déjà préconisé une dose qui serait admissible sur les technologies mobiles. Et alors cette dose, et notamment cette norme, elle devrait être de 0,6 volts par mètre, donc d'émission. Il faut savoir qu'il y a certains pays qui tendent à s'y rapprocher, notamment l'Autriche. Hein, ils ont mis en place des systèmes qui se permettent de rapprocher des émissions d'antennes de téléphonie mobile, à 0,6 volts par mètre. Ça, c'est la première chose. Après, effectivement, pour revenir sur et ça, c'est une directive européenne. Alors, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un poids et deux mesures. Parce que d'un côté, avec la directive européenne que nous rabat à longueur de journée dans ses courriers Enedis en disant c'est la directive européenne et c'est la loi de transition énergétique qui a été effectivement transposée, enfin qui est une transposition de cette directive. Donc là, on applique la directive de l'Europe et notamment par exemple sur l'émission des rayonnements, l'abaissement à 0,6 volts par mètre, eh ben, on n'applique pas la directive. Donc c'est un petit peu dommage, il y a un poids et deux mesures. Une chose est sûre, après sur la notion d'électrosensibilité aussi, je tiens à tirer une précision. Il faut savoir que il a fallu attendre mars, je dis bien mars 2018, pour que la fameuse ANSES reconnaisse l'électrosensibilité comme une maladie. C'est-à-dire que jusqu'en mars 2018, je rappelle à vos auditeurs que les électrosensibles étaient des extraterrestres qui travaillaient un peu de la cafetière et on prenait les gens par rapport à ce qu'ils disaient, effectivement, on prenait les gens pour des imbéciles ou pour des gens avec des pathologies de type psychiatrique ou autre. Donc, mars 2018, il y a une reconnaissance de l'électrosensibilité en France. Les chiffres même sont annoncés par l'ANSES. Globalement, 5% de la population. Ça fait, grosso modo, allez, aux alentours de entre 3 millions et 3,5 millions de personnes électrosensibles. Donc ça aussi, c'est un fait nouveau. Alors l'ANSES, malheureusement, elle constate et elle dit qu'il faut faire des études. Bon, elle a qu'à se référer à ce que disait Bioinitiative, etc., pour revenir sur le sujet. Et les études, on les a déjà. Voilà. Donc après, sur cette histoire de 5G, effectivement, la 5G, malheureusement, il faut savoir que c'est une technologie qui est complètement différente en matière de téléphonie mobile que ce qu'on a pu connaître. C'est-à-dire que les ondes de la 5G sont des micro-ondes. Donc, elles ont des longueurs d'onde plus courtes et elles sont du coup plus puissantes, puisqu'effectivement, elles sont censées amener plus de capacité de transporter de données. Donc là, malheureusement, on ne va pas encore dans le bon sens, c'est-à-dire que qui dit onde plus puissante avec longueur d'onde plus courte, dit multiplication des antennes, mais effectivement, ce qui va faire du mal à la population et aux vivants, c'est la puissance d'émission de ces antennes. Et vu qu'il va y en avoir beaucoup plus encore que celle de la technologie 4G, puisqu'aujourd'hui on est à la 4G, on ne résout pas le problème. On l'accentue. Et on va être aussi... Alors il y a une autre problématique, c'est que comme c'est des micro-ondes, elles ne passent pas à travers le béton, etc. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des antennes qui vont être implantées au plus proche des populations. Et sur ce fait, il faut savoir que dans le cadre de la loi Elan, Enedis est devenu propriétaire des colonnes montantes des immeubles. Oui. C'est-à-dire que Enedis, étant propriétaire des colonnes montantes des immeubles, peut tout à fait installer, au lieu que l'antenne soit à l'extérieur du bâtiment ou sur les toits des bâtiments, et ben les antennes de 5G, à mon avis, il y en aura dans les colonnes montantes des immeubles, puisque effectivement, Enedis a la possibilité, vu qu'il est propriétaire, de donner son accord à qui veut bien lui demander pour installer effectivement des antennes. Et donc ces antennes-là, ben effectivement, elles seront encore au plus proche du vivant. Elles peuvent être dissimulées effectivement dans les abribus, les choses comme ça. Il faut savoir que JC Deco a déjà apparemment passé des accords effectivement avec des fabricants d'antennes pour livrer, on va dire, des abribus ready 5G, quoi. Voilà.
Home. what's the use of moving uptown? Flying to Rome on your credit card. An endless parade of lawyers and finance. Plenty of time with nothing to do.
Ces informations que vous donnez, que font les pouvoirs publics dans cette histoire, le pouvoir étant le garant d'un bien-être de la population, est-ce que vous avez perdu cette partie de naïveté?
Alors, justement, c'est ce que je dis souvent, moi, dans le cadre des réunions d'information que nous donnons à la population, c'est que je reviens au Linky. Le Linky, est, au départ, c'est parti par une décision politique. Hein. Donc on a dit, effectivement, on aura des compteurs communicants, et ce n'est pas Enedis qui a décidé, c'est l'État. Donc le sujet, au départ, il est politique. Et ce que je déplore aujourd'hui, donc, c'est depuis le déploiement définitif du Linky, hein, c'est-à-dire 2015, eh ben, les politiques, aujourd'hui, on ne les entend pas. Alors, effectivement, on a eu un ministre, le plus récent des ministres de l'environnement et de l'écologie, Nicolas Hulot. Effectivement, il a eu beaucoup de mal, je pense, à communiquer sur certains sujets. Il a mis d'ailleurs très très longtemps, plus de 6 mois, à répondre à Stéphane Lhomme qui lui écrivait, qui lui demandait de prendre des positions. Aujourd'hui, le politique, au plus haut niveau, effectivement, ne semble pas bouger. Alors, je pense que les politiques, ils ont des attachés de presse, ils savent effectivement qu'on parle du Linky, mais on va dire au plus haut niveau de l'État, on est étonnamment muet. On est aussi étonnamment muet dans des gestions plus décentralisées, communautés de communes, etc. Les maires, bien évidemment, on a vu que ceux qui prenaient des arrêtés contre le Linky, malheureusement, ils se heurtaient, entre guillemets, à l'État, puisque le préfet est le représentant de l'État au niveau du département, et que je pense, sans vouloir me tromper, que les préfectures, les préfets avaient des instructions, et tout arrêté qui arrivait en préfecture et qui passait au contrôle de légalité, dans la mesure où il y avait le mot Linky dedans, eh ben on le déclarait non conforme, et on demandait au maire, effectivement, de retirer. Alors effectivement, il y a certains maires courageux, il ne faut pas l'oublier, hein, aujourd'hui, le compteur, je ne sais pas combien il est, mais on doit être à 600 ou 700 communes, ou 800 peut-être de communes en France qui refusent ou qui ont pris des arrêtés tentant à protéger la population. Mais effectivement, le sujet reste encore très peu évoqué par les politiques. Alors, le fait nouveau aujourd'hui, et je donnerai la parole à Roselyne sur le sujet, il faut savoir qu'il y a quand même certains élus, et on va dire des élus de terrain, des maires, des conseillers municipaux, qui ont pris des initiatives, et il s'est créé en France plusieurs comités d'élus, justement, qui se rassemblent pour trouver une alternative et pouvoir prendre des décisions de manière commune, parce que ensemble, quand même, on est quand même beaucoup plus fort que tout seul, et effectivement, de prendre des décisions pour essayer soit d'amener un moratoire, soit de faire évoluer les choses concernant le Linky. Alors, il faut savoir que sur l'Ardèche, on a déjà effectivement un comité d'élus qui est constitué. Il a été constitué au mois de janvier. Il s'appelle le CEPAL, C-E-A-P-A-L, ce qui veut dire Comité d'élus ardéchois pour une alternative au Linky. Et puis là, maintenant, je vais laisser la parole parce que la Drôme, effectivement... on a passé l'information au Drômois et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour la Drôme. Voilà.
Oui, effectivement, sur la Drôme, il y a la même initiative qui est en train de voir le jour. Il y a déjà eu deux réunions. La première, il y avait quelques personnes, il y avait quelques maires, 7-8. Et la dernière réunion, on était une quinzaine à peu près, avec des élus et des représentants collectifs dont je suis. Et Pascal, également, nous avions aussi la présence d'un avocat.
C'est Maître Arnaud Durand, du cabinet d'expression.
Voilà. Et donc, il se dirige vers la formation, la création d'un collectif d'élus sur une alternative au Linky. Parce qu'en fait, le Linky a été voulu, les compteurs communicants ont été voulus et lancés dans la directive, dans la loi de 2015 pour la transition énergétique. Mais en fait, pour faire, comme disait tout à l'heure Pascal, de faire du consommateur un acteur de sa consommation, c'est-à-dire pour l'inciter à économiser l'énergie. Très bien. La technologie qui a été choisie, c'est-à-dire le Linky, n'est pas certainement pas la meilleure et il existe des alternatives. Nous en avons trouvé et ces élus-là veulent essayer de promouvoir une alternative qui pourra éviter le CPL, éviter les ondes et tout en permettant de répondre aux objectifs de la loi de transition, c'est-à-dire économiser l'énergie. Parce qu'on l'a déjà dit à cette antenne, je crois, le Linky ne fait pas économiser l'énergie. Et tous les objets connectés, etc., qui vont se développer, au contraire. Voilà. Donc, c'est en route. On devrait se revoir à la rentrée, probablement, et ça va être lancé.
Finalement, dans cette histoire, Enedis, c'est un monopole incontournable ou ça va devenir un monopole incontournable ?
Alors, malheureusement, Enedis est en situation de monopole incontournable. Il faut savoir qu'en France, on n'a qu'un seul distributeur. Alors, je fais un bref rappel pour les auditeurs aussi. Beaucoup de gens, effectivement, aujourd'hui se mélangent les pinceaux. Bon, je rappelle qu'il y a plusieurs années en arrière, on avait en France une société qui s'appelait EDF, pour l'électricité, et GDF pour le gaz, qui assurait les deux assurant, dans les deux cas, la vente de l'énergie et la distribution. Et puis, effectivement, l'Europe est arrivée. Elle a dit, effectivement, qu'il fallait libéraliser le prix de l'énergie. Donc, l'énergie devenait un secteur concurrentiel. Donc, il y a eu scission, donc en France comme dans d'autres pays. Et aujourd'hui, on était obligé d'avoir un fournisseur ou des fournisseurs d'énergie, et puis un ou des distributeurs. Alors effectivement, il y a des pays comme en Allemagne, effectivement, où il y a des fournisseurs et des distributeurs, donc le marché de la distribution est sur un secteur concurrentiel. Malheureusement, en France aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui avec plus d'une vingtaine de fournisseurs d'énergie différents, que ce soit pour le gaz ou l'électricité. Par contre, on n'a qu'un seul distributeur. Et malheureusement, Enedis joue de sa position monopolistique sur le sujet. C'est-à-dire que Enedis impose, Enedis contraint les gens, Enedis harcèle les gens qui ne veulent pas le compteur Linky. Des gens font des courriers avec des questions précises. Enedis ne répond jamais aux questions, hein, et se contente de dire bah, c'est la loi, il y a obligation. Je rappellerai sur le sujet, effectivement, et pour les plus curieux d'entre vous, que les articles, ayez au moins cette curiosité, allez voir ce que disent ces articles, et vous verrez que le L341 ou le R341, donc le L, ça veut dire que c'est une loi, le R, ça veut dire que c'est une recommandation. Donc déjà, une recommandation, c'est pas, ça n'a pas les mêmes effets qu'une loi, on est bien d'accord. Et je dirais en substance, allez lire ce qu'il y a dans ces articles-là, mais si vous trouvez à un quelconque moment que l'obligation repose sur le consommateur pour accepter le Linky, bah, il faut vite me téléphoner, hein, parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, l'obligation repose sur Enedis. C'est Enedis qui s'est engagé auprès de l'État de poser, non pas, comme le préconisait la communauté européenne, 80% de compteurs communicants, mais là, ils sont allés au-delà, ils ont dit... En France, en 2021, on aura 100% de compteurs posés en France. Voilà.
Pascal parle de pression. Ça va même au-delà, puisque ceux qui refusent reçoivent des lettres de menaces. J'ai eu des retours de personnes à qui on a imposé qui refusent le Linky. Et vraiment, c'est des lettres qui les menacent même de les traîner en justice. Voilà. Donc, le consommateur isolé, il ne sait pas quoi faire. Hein. Il a peur. On vous menace de justice, la loi. Donc, du coup, ben, vous cédez. Ce sont des intimidations. Voilà. Et alors que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible. Et il y a autre chose. Il y a autre chose. C'est-à-dire que ceux qui ont le compteur chez eux peuvent ne pas ouvrir, ne pas répondre à aucune sollicitation. Ils sont protégés par la loi, puisque c'est la loi de la propriété privée. Mais ceux dont le compteur est sur la rue sont malheureusement aux mains d'Enedis. Donc il y a deux poids, deux mesures.
Il a même été rapporté des effractions de domicile pour installer ces compteurs dans les domiciles.
C'est possible.
C'est
hein.
des articles que j'avais lus dans un.
Bon, après, c'est pas toujours
les. Satirique. Ouais. Je voudrais revenir un petit peu sur l'Allemagne. Quelles sont les données actuellement du système de distribution électrique en Allemagne? Est-ce qu'il est bénéfique finalement pour le consommateur?
Bah, il faut savoir que, alors, en Allemagne, si vous voulez, c'est, comme je l'ai dit, l'Allemagne n'a pas déployé les compteurs communicants au niveau domestique pour les particuliers. L'Allemagne, en fait, elle a vu que si on le mettait en place pour le particulier, ça revenait très cher. Donc déjà, bilan coût-bénéfice en défaveur du déploiement de ces compteurs. Ça, c'est le premier point. Une autre spécificité de l'Allemagne, c'est que je pense qu'en Allemagne aussi, ils se sont dit qui consomme de l'électricité et quelle est la part de l'industriel sur les consommations par rapport effectivement aux domestiques. Je pense qu'ils avaient les chiffres. Et aujourd'hui, en Allemagne, ils ont plus déployé des solutions de mettre à disposition des industriels vraiment leurs données de comptage pour, quelque part, leur faire prendre conscience et leur faire effectuer des recherches pour minimiser leur consommation. Et la dernière spécificité de l'Allemagne aussi, c'est que je pense qu'en termes de qualité des logements, les pays, que ce soit l'Allemagne, voire les pays nordiques, ont largement une longueur d'avance en termes d'isolation, de conception des bâtiments. Effectivement, il ne faut pas se voiler la face. Ils ont une longueur d'avance, ils ont déjà pris certaines dispositions, notamment certains labels effectivement énergétiques, hein, tels que le Passive House. C'est un label allemand, c'est la maison passive, hein, mais effectivement, ça vient d'Allemagne. Donc, ils se sont posé des questions justement sur comment faire effectivement pour ne pas consommer. Et je rappellerai en substance que même si c'est un petit peu une lapalissade, mais l'énergie qui nous coûte la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas.
Je voulais juste préciser qu'il n'y a pas que l'Allemagne qui a refusé le déploiement pour les particuliers. Il y a aussi la Belgique. Le Portugal n'en veut pas. Et puis, il y a deux pays de l'Europe. C'est la Lettonie, je crois. Et puis, je ne sais plus...
L'Autriche aussi, ils n'ont pas de...
L'Autriche, voilà.
Ils n'ont pas de compteur communicant.
Donc, ça n'est pas l'Union européenne qui impose les compteurs dits intelligents. C'est une décision politique, comme le disait Pascal tout à l'heure. C'est vraiment le gouvernement français et ailleurs, dans les autres pays, qui impose ça aux particuliers ou pas. Voilà.
Pascal, par quel cheminement, je repose la question que j'avais posée en début d'émission à Roselyne, par quel cheminement vous êtes-vous retrouvé sur cette lutte contre les compteurs Linky?
Alors, ça s'est fait tout bêtement, je vais dire. Je me renseigne, j'appartiens à des réseaux, je reçois des informations. Et à partir du moment où... moi, je suis arrivé par le Linky, par le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, c'était le point de départ. C'est-à-dire que j'ai reçu, on m'a largement conseillé de lire un rapport qui avait été fait sur le sujet, par le biais du cabinet Artemisia. D'ailleurs, ce rapport du cabinet Artemisia qui dit un petit peu le Linky, comment c'est arrivé, il faut savoir qu'il existe. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas l'accès à Internet, mais effectivement, on peut quand même essayer de se le procurer, se rapprocher des associations aussi pour avoir ces renseignements-là. Et le cabinet Artemisia, effectivement, moi, j'ai lu le rapport. C'est vrai que j'ai passé un bon dimanche après-midi, je suis allé jusqu'au fond et je me suis dit, globalement, ce truc-là, ce n'est pas possible. Et de fil en aiguille, effectivement, on rentre dans le Linky, je ne dirais pas comme on rentre en religion, mais effectivement, après, on creuse, et on creuse les... Alors, il y a l'aspect faisabilité, après, il y a les aspects techniques, comment ça fonctionne, pourquoi, comment, etc. La santé, ondes électromagnétiques. Moi, je sais que je savais que l'OMS, depuis 2011, a dit une chose claire et nette. Elle a dit, les rayonnements électromagnétiques, c'est pareil, sans citer de valeur. Les rayonnements électromagnétiques sont potentiellement cancérigènes. Donc la potentialité, même si c'est un événement fortuit et qui n'a pas, quelque chose de systématique dans sa notion, il faut savoir que ces ondes, les rayonnements électromagnétiques peuvent créer des problèmes au niveau de la santé dans certains cas et sur certaines personnes. Et pour rejoindre sur ce que disait effectivement Roselyne tout à l'heure, il faut savoir qu'avec ces technologies qui développent, qui utilisent de plus en plus les rayonnements, les objets connectés, on en parle. Il faut savoir que aujourd'hui, on nous implante d'abord dans les domiciles les objets connectés, parce que le projet final, c'est d'avoir les villes connectées et d'avoir le monde connecté. Donc le monde connecté, ça veut dire c'est des antennes de partout, et c'est vraiment on sera complètement immergé dans un environnement électromagnétique avec les conséquences que cela suppose. Et globalement, moi, je me considère comme potentiellement électrosensible.
Au-delà de la santé, c'est un projet de société, de tout connecté.
Tout à fait.
Que l'on peut se poser. On peut quand même se poser la question. Est-ce que c'est ce que l'on veut pour l'avenir d'un homme, d'un humain connecté? Les voitures intelligentes, les caméras partout. Enfin, voilà. Après, c'est une question philosophique aussi. Qu'est-ce qu'on veut?
Ça nous donnera le droit d'être idiots.
Par exemple, et justement, quels sont les véritables objectifs?
Surtout ne plus penser.
Voilà, cette émission se termine, parce que l'heure passe. Et donc, je vous remercie tous deux, Pascal Laurent et Roselyne Chauvin, d'être venus nous parler de Stop Linky, Dromardèche. Vous avez toujours un site internet, je suppose, pour ceux qui ont internet?
Alors, pour ce qui est de Stop Linky Dromardèche, le site est en cours de création. Moi, je renverrai les personnes sur un autre site, effectivement, d'un collectif valentinois qui travaille sur la question du Linky depuis maintenant 4 ans. Donc, l'adresse mail de ce collectif, alors le collectif, c'est la Transition Collective du Valentinois. Donc, l'adresse mail, c'est accueil@transitioncollectivedualentinois.com. Et effectivement, ben voilà, s'ils veulent envoyer des informations, après nous, donc l'association Stop Linking Home Ardèche, qui a vocation aussi de fédérer et de d'assurer un lien entre les différents collectifs, on peut être amené sur des réponses émanant, enfin sur des questions pardon émanant des collectifs, de revenir vers les gens et de leur apporter les informations. Voilà.
Pascal et Roselyne, bonne soirée à vous.
Merci.
Au revoir.
Interview.
Okay. Goodbye, everyone.